Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LoungeKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Dans 30 minutes, la Libre Antenne, vous en profitez évidemment pour commenter l'actualité de votre choix. Certains d'entre vous nous appellent du Tchad notamment pour nous interpeller sur la décision de l'opposant Succès Masra de saisir la Cour pénale internationale après les violences du 20 octobre. On nous appelle également ce matin de Guinée sur la grève de la faim entamée par deux responsables du Front National pour la Défense de la Constitution. Des réactions également sur l'arrestation au Sénégal du journaliste Papa Lénian, sur la COP27, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et incontestablement, le sujet qui fait ce matin le plus réagir tous ceux qui nous écoutent, c'est la blessure de Sadio Mané. La star sénégalaise pourra-t-elle disputer la Coupe du Monde de football? On en parlera évidemment dans la Libre Antenne et on va en parler dès maintenant avec vous et vos questions à la rédaction. Je suis ravi d'accueillir Roland Giscard qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Roland Giscard.
Bonjour Juan Gomez et bonjour RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci Juan Gomez. Après la blessure, sa blessure contre le Verdun de Brême mardi dernier, la participation de Sadio Mané à la Coupe du Monde semble être compromise. Première question, qu'est-on plus sur la durée de l'indisponibilité du joueur?
Ouais, bonne question que vous posez. Déjà, il ne sera pas sur le terrain samedi, demain, contre Schalke. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Roland Giscard et bonjour à tous.
Journaliste au service des sports de RFI, c'est vrai que c'est tout un pays qui retient son souffle. On en saura un peu plus en moins de deux heures. Quelles sont les dernières nouvelles de Sadio Mané?
Les dernières nouvelles, c'est que c'est certainement le secret le mieux gardé du Sénégal à l'heure actuelle. Tout le monde marche sur des œufs dans cette affaire parce que c'est extrêmement sensible. Ce qu'on sait, c'est que son club, le Bayern Munich, le club de Sadio Mané, a communiqué rapidement, enfin presque 24 heures après sa blessure, pour annoncer que c'était une blessure au niveau du péroné ou de la fibula. C'est un os qui a deux noms, donc juste en dessous du genou. Le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso, était hier à Munich pour évaluer l'état de santé et essayer de déterminer un petit peu, estimer l'indisponibilité de Sadio Mané, parce que le péroné, en tout cas une blessure à cet endroit-là, c'est toujours un peu sensible, c'est un endroit très important et dont peut résulter une indisponibilité plus ou moins longue. Est-ce qu'on en saura plus? Certainement qu'Aliou Cissé, vous l'avez dit, qui va annoncer sa liste tout à l'heure, donnera
à
des précisions.
À 10h, temps universel, 11h de Paris.
À Dakar, il a convoqué la presse pour ça. Il donnera certainement des précisions, des éléments en tout cas. Mais prendre le risque d'annoncer le forfait de Sadio Mané, c'est trop risqué. C'est se priver d'un élément essentiel d'ailleurs. Rien n'indique que même blessé, Sadio Mané ne sera pas là. On le rappelle, Aliou Cissé, il a le droit d'inscrire 26 joueurs. Ça lui laisse une certaine marge. C'est une marge qui est liée au Covid, mais qui s'applique bien pour cette Coupe du Monde un petit peu spéciale qui arrive en plein milieu d'une saison de championnat. Donc à 23, la réflexion serait différente. Mais à 26, on peut emmener un joueur blessé et espérer qu'il se remette,
vous
comme ça peut être le cas avec Sadio Mané.
Antoine Grenier, vous êtes en train de nous dire que Sadio Mané sera sur la liste.
Plusieurs sources à la Fédération sénégalaise l'annoncent. Ouais. Effectivement, que Sadio Mané, quoi qu'il arrive, sera sur la liste. Mais il est trop important, de toute façon, pour qu'on puisse se priver d'un tel joueur.
Il sera sur la liste. Après, la question, c'est pourra-t-il jouer?
Est-ce qu'il sera remis au moment de la phase de groupe? Est-ce qu'il sera remis après la phase de groupe? Toute la question, elle est là, à plus de savoir s'il ira au Qatar. Ça, c'est 99,99% acquis.
Roland Giscard, une dernière question.
Merci, Juan Gomez. La toute dernière, enfin, j'avais encore deux questions, mais la toute dernière, l'absence de l'attaquant phare aura-t-elle des conséquences sur la sélection sénégalaise et enfin, qui pourrait remplacer la star dans la sélection?
J'ai envie de répondre, excusez-moi Antoine Grenier, en reprenant les propos du patron de la Fédération sénégalaise football, Augustin Sangor, qui disait « c'est comme si l'équipe de France perdait Benzema ».
Ou comme si Appel sur l'actu perdait Juan Gomez.
Oh non, non,
en tout cas, il est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que Mané, comme Juan Gomez, est compliqué à remplacer. Et en tout cas, on ne joue pas de la même manière quand Mané n'est pas là. C'est-à-dire que la conséquence immédiate, elle est chiffrée. C'est que depuis la qualification du Sénégal pour la Coupe du Monde, donc ce match en aller-retour contre l'Égypte, le Sénégal a disputé 4 matchs. Mané, il a marqué 5 buts. Donc c'est dire s'il est absolument essentiel de l'avoir. Là, on parle d'un joueur qui a 92 sélections, 33 buts, et qui, au-delà simplement de l'aspect comptable, c'est un leader. Alors, c'est pas forcément un leader qui va parler fort dans le vestiaire. Pour ça, il y a Kalidou Koulibaly, le capitaine. Lui, Mané, c'est plutôt un leader d'exemple par son implication, par son palmarès. C'est quand même quelqu'un qui a gagné des Ligues des Champions. Il emmène l'équipe derrière lui. Alors, qui pourrait le remplacer? Et puis comment? En éliminatoire de Coupe d'Afrique, Keïta Baldé l'avait remplacé en fin de match alors que Mané avait inscrit un triplé contre le Bénin. Keïta Baldé, ça aurait pu être une solution, sauf qu'il est suspendu jusqu'en décembre pour dopage. Donc, il ne sera pas là. Quelle solution? On pense à Crépin Diata, qui est le joueur de Monaco, qui est un des espoirs à confirmer du football sénégalais, qui lui pourrait bien s'insérer dans un système comme les utilise Aliou Cissé avec Ismail Assar à gauche et Boulaïdia en buteur. Il y a également Ismaël Jacobs, le tout néo-international d'origine allemande qui est arrivé dans la sélection en septembre. Bamba Dieng qui reprend un petit peu de temps de jeu à Marseille. Et Illiman Diaye, le joueur de Sheffield en deuxième division anglaise. Mais aucun n'a le CV de Mané, ni son niveau, tout simplement.
Effectivement. Roland Giscard, a-t-on répondu à vos questions?
Merci Juan Gomez, merci RFI.
Et merci Antoine Grenier, surtout, du service des sports. On est ensemble, bien évidemment, et on va suivre cette matinée tous ensemble et découvrir la liste d'Aliou Cissé. On croise les doigts, évidemment, pour Sadio Mané, et on en reparle dans moins d'une demi-heure. À bientôt, mon cher Antoine Grenier. Bonne journée, 9h17 à Paris, on repasse au Standard, à Lidor. Soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bienvenue à Kinshasa, mais je vous amène dans l'est de mon pays.
Ah, très bien, merci de nous accueillir dans la capitale de la RDC. Vous avez des questions après l'appel aux jeunes du président Félix Tshisekedi à se mobiliser pour combattre les rebelles du M23?
C'est effectivement ça Juan Gomez. Vous le savez bien, en République démocratique du Congo, des jeunes congolais se rendent dans des centres de recrutement suite à l'appel à la mobilisation du président Félix Tshisekedi. Du coup, j'ai quelques questions. D'abord, avons-nous une estimation du nombre des jeunes ayant répondu à l'appel?
Appel lancé donc par le chef de l'État. Il les a appelés à s'engager dans l'armée et à former des groupes de vigilance. Bonjour Coralie Piret.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI en RDC. Vous êtes actuellement à Goma. Une semaine après le discours à la nation du président Tshisekedi, les jeunes répondent-ils favorablement à l'appel du chef de l'État?
Alors, en tout cas, on sait qu'ils sont environ 2000 à s'être engagés depuis la semaine dernière, selon les chiffres donnés par le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge. À cela s'ajoutent 800 autres jeunes qui se sont inscrits à Goma, selon le porte-parole de la région, le colonel Guillaume Tchiké. Goma, il faut préciser que c'est le chef-lieu du Nord Kivu, la province qui est touchée par les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées, les FARDC.
Et vous avez pu justement, Coralie Pierret, visiter le centre de recrutement de Goma. Est-ce que les jeunes suivent en ce moment une formation?
Alors, pour l'instant, la formation n'a pas encore formellement commencé. Ces jeunes apprennent les rudiments du garde-à-vous, les chants militaires, ils s'entraînent à la parade avec des fusils ou des armes fabriquées en bois ou en plastique. Ils passent aussi des tests médicaux, des tests d'aptitude physique, mais ils ne sont pas encore pris en charge par l'armée. Ils n'ont pas encore vraiment commencé leur formation, donc ils n'ont pas reçu d'équipement et ils ne sont pas encore cantonnés, bien sûr.
Ouais.
Et il faut préciser que...
Non, allez-y, je vous en prie, Coralie.
Il faut préciser que ces nouveaux venus en fait côtoient d'autres recrues qui s'étaient engagées avant l'appel du chef de l'État. Ceux-là viennent le lundi et le vendredi. Ils répondent à l'appel et puis ils rentrent chez eux. Certains attendent depuis plusieurs mois, depuis 2, 6, 12 mois, le début de leur formation. Et lorsque j'ai visité ce centre à Goma, ils étaient environ une centaine anciennes et nouvelles recrues mélangées.
Ouais, à Lidor, à Kinshasa, nous demandait au standard, vont-ils suivre une formation ? La réponse est oui, mais a-t-on une idée de quand commencera cette fameuse formation, Coralie ?
Alors, on n'a pas encore de date exacte. Prochainement, répondait le colonel Faustin Bakala, le directeur en charge du recrutement dans la province du Nord Kivu. Il précise que ces jeunes recrues seront dispatchés dans 6 centres de formation en RDC, mais ne donne pas la date. Alors, se pose encore la question du financement de cette formation, sachant que l'armée congolaise est souvent critiquée pour son manque d'équipement ou même d'argent. Il y a quelques semaines, une vidéo d'un FR RDC a circulé sur les réseaux sociaux. Ce soldat sur le front se filmait en selfie et se plaignait de ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours.
Ouais. Je le disais en préambule, Coralie Pierret, au-delà de cet appel à s'engager dans l'armée, le président Tshisekedi a aussi appelé la jeunesse congolaise à former des groupes de vigilance.
Oui, il faut bien différencier le recrutement dans l'armée dont on vient de parler et ces groupes de vigilance. Alors, l'objectif de ces groupes serait de renforcer la collaboration entre les services de sécurité et la population, selon les précisions de l'entourage du président congolais, pour, je cite, dénoncer d'éventuelles infiltrations dans la ville par les rebelles du M23. Mais pour l'heure, ces groupes à Goma n'ont pas officiellement vu le jour.
Ouais, voilà un sujet qu'on abordera tout à l'heure dans la Libre Antenne. Je vois le commentaire d'Augustin, il est à Kisangani. Il salue l'appel du président aux jeunes. Le civisme et le patriotisme des Congolais augmentent de jour en jour, dit-il. On le rappellera et on aura l'occasion donc d'évoquer cette actualité. Merci infiniment Coralie Pierret en direct de Goma. Je remercie Alidor évidemment qui nous appelait de Kinshasa. D'autres questions, vous nous appelez 339 693 693 70. Dumbo nous écoute à Bamako, dans la capitale malienne, grâce à un VPN. Bonjour Dumbo.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu. Des questions sur la situation sécuritaire dans la région de Gao, votre pays.
Oui. Elhadj Gamou, figure Touareg de l'armée malienne, appelle les jeunes Touareg à combattre l'IGF à Gao. Alors Juan, j'ai quelques questions à ce sujet. Quelle est l'influence du général Gamou auprès des Touareg? Et est-ce que son appel peut-il être attendu?
Alors effectivement, il y a eu ce message qui circule sur les réseaux sociaux du général Elhadj Agamou qui appelle à protéger la ville de Gao contre les djihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara. Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Concrètement, que dit le général Agamou dans cet appel et à qui est-il adressé exactement?
En fait, le général Gamou, dans cet appel, s'adresse, on va dire, à ces gens en particulier. Donc, c'est un groupe WhatsApp où il y a 380 personnes. Il le dit lui-même dans l'audio. Il dit « Je m'adresse aux 380 membres de ce groupe que je connais. Je les appelle à cotiser, donc à mettre de l'argent pour aider les déplacés à cause des derniers combats et à rejoindre Gao dans les 10 jours. Mmh. Sauf que donc cet appel a été un peu sorti de son contexte et amplifié pour des raisons que j'ignore. Le premier qui a mis en alerte, c'était Walid Le Berber sur Twitter. Puis d'autres personnes m'ont dit « Attention, c'est un appel très particulier qui ne concerne pas tout le monde. » Et les questions posées au premier concerné, on a compris que oui, effectivement, il s'adressait à son groupe WhatsApp et aux jeunes qui sont dans ce groupe WhatsApp. D'ailleurs, il y a bon papier de Bembéré qui résume un peu l'amalgame, on va dire, finalement.
Donc, Wassim Nasr, il ne s'agit pas d'un appel, comme il a été dit ici et là, lancé à tous les jeunes Touaregs du Mali et de l'extérieur.
Pas du tout. Et encore une fois, lui-même, il dit dans son audio qu'il s'adresse aux 380 personnes avec qui il est en contact. Ouais. Et il faut rappeler aussi que ce n'est pas le premier appel du genre qui se fait sur WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est le moyen de communication, que ce soit par le général Gamou ou d'autres, et qu'il y en aura d'autres derrière. Et que troisièmement, le général Gamou, il n'a pas de prérogative, on va dire, assez d'influence pour appeler tous les jeunes Touaregs du Mali et de l'extérieur à rejoindre son groupe en particulier.
Ouais. Dumbo, vous avez une dernière question à poser à Wassim Nasr.
Oui. Alors, quelles sont les chances de Gamou à battre l'IS dans la région?
Oui, concrètement, a-t-il les moyens d'éradiquer ou en tout cas de lutter contre les djihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara?
En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé. Il a essayé dans un boucan, donc l'Egatia de Gamou, plus le MSA, le Mouvement pour le Salut de l'Azawad, plus le GTA 8 qui appartient à l'armée malienne, ce sont aussi les gens de Gamou, ont essayé de contrer l'État islamique il y a quelques mois dans un boucan, sauf qu'ils ont été défaits, pour dire les choses clairement, à Djalalat, 40 km de la localité. Et depuis cette défaite, il n'y a pas eu de réussite face à l'État islamique dans cette zone, de par les factions. L'État islamique s'est confronté aux hommes du général Gamou à côté de Gaou il y a quelques jours, quelques semaines. Le général Gamou a perdu 16 hommes. Et la situation aujourd'hui est de fait, on a le JNIM, donc Al-Qaïda, qui est monté au front depuis une semaine après, et c'est lui qui se confronte à l'État islamique pour essayer de l'empêcher d'étendre encore plus sa zone d'influence, que ce soit au Ménaka ou au Gaou. Donc le fait est aujourd'hui que, mis à part le résultat de cette guerre qui se profile entre Al-Qaïda et l'État islamique, le JNIM est présent au Ménaka, là où il n'était pas très présent avant, et on verra à quoi ça va mener. Mais encore une fois, le général Gaou, il a essayé, il n'a pas réussi, et rien n'a changé qui pourrait laisser entendre que cette fois-ci, il pourrait réussir, sachant que d'autres factions Touareg se sont mobilisées aussi dans cette guerre contre l'État islamique. Mais comme d'habitude, chaque faction s'organise seule dans son coin, même s'il y a parfois des conférences et des appels à faire des efforts unis pour contrer l'État islamique, encore une fois.
Merci infiniment, Wassim Nasr, de toutes ces explications, spécialiste des mouvements djihadistes, journaliste à France 24. Doumbo, merci infiniment de votre fidélité à Bamako. La dernière question du jour et de la semaine, c'est Amadou qui nous la pose. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez, et bon reprise aux commandes de la paix sur l'actualité.
Oui, j'ai repris en début de semaine, mais c'est gentil effectivement de le souligner. Vous êtes à Niamey, au Niger, vous avez des questions sur l'Ukraine?
Oui, effectivement. Le ministre de l'armée russe, Sergei Shoigu, a annoncé le repli de l'armée russe de la ville ukrainienne de Kherson. Alors, ma première question est de savoir quel enjeu stratégique représentait la ville de Kherson pour l'armée russe.
Oui, une ville importante puisqu'elle était contrôlée par l'armée russe depuis le début de la guerre. Denis Strelkov, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction en langue russe de RFI. Retrait annoncé, mais d'abord, est-ce qu'il est confirmé ce retrait?
On peut dire que c'est confirmé au moins par des différentes sources, qu'on voit qu'il y a de moins en moins de soldats russes qui sont maintenant présents dans la ville de Kherson, mais ce n'est pas encore clair. Est-ce que tout le monde est déjà parti ou est-ce qu'ils vont partir très bientôt. De ce qu'on peut dire, en fait, l'armée russe ne va pas rester dans cette ville-là, car il y a de plus en plus des soldats ukrainiens qui arrivent un peu de tous les côtés. Donc même si au début, on aurait pu penser que c'était effectivement un piège pour les Ukrainiens, pour puis avoir lancé une différente opération militaire dans la ville de Kherson, ici, on voit bien que c'est un retrait qui est confirmé. Par contre, la ville, elle est bien minée, donc l'armée ukrainienne avance à pas par pas, même si la ville est a priori vide des soldats russes. Maintenant, pour l'instant, l'armée ukrainienne n'est pas encore dans la ville de Kherson.
Mais c'est une ville importante pour les Russes?
C'était plutôt une ville symbolique depuis le début de la guerre, comme vous l'avez bien souligné. C'était la ville qui était obtenue sous contrôle russe depuis le début de la guerre, depuis le mois de mars aussi. La ville qui était devenue sous contrôle russe, car il y a eu pas mal de trahisons au sein de l'armée ukrainienne, au sein aussi des autorités ukrainiennes tout au début de la guerre, qui pensaient que, vu que la Russie avance et l'armée va capturer de plus en plus de villes, donc il faut rendre les villes qui ne sont pas encore détruites. Donc c'est ça l'idée. Mais surtout que c'était aussi une porte pour aller puis à Odessa, dans d'autres villes dans le sud de l'Ukraine. Donc en fait, c'était une opportunité pour l'armée russe d'avancer encore plus dans le sud, pourquoi pas vers la Moldavie, pourquoi pas continuer même vers d'autres pays. Maintenant, on voit bien que depuis que l'agression russe a piétiné dans pas mal de zones, c'était devenu plutôt un handicap pour l'armée. Car
D'où le retrait annoncé.
Exactement, car il faut bien comprendre que la ville de Kherson est divisée par deux par la rivière de Dnepr, donc la rivière qui est assez large, qui est difficile à franchir, et vu que l'armée ukrainienne a commencé à bombarder les ponts, le garnison russe qui était stationné à Kherson, il était de plus en plus difficile de le maintenir pour les raisons logistiques, d'où effectivement, oui, c'était devenu de plus en plus difficile de garder cette armée dans la ville de Kherson, et d'où le retrait qui semble logique du point de vue militaire, mais du point de vue politique, pour Vladimir Poutine, c'est quand même un échec, car il faut bien le comprendre, c'était une capitale régionale par la Russie, c'était la Russie. Maintenant, la Russie, effectivement, quittait ce qu'elle pensait être russe. Oui.
Et c'était d'ailleurs la seule capitale régionale que l'armée russe était parvenue à conquérir en Ukraine depuis le début de la guerre. Merci infiniment, Denis Strelkov, d'être passé dans ce studio pour répondre à Amadou, qui nous appelait de Niamey. Il est bientôt 9h30 ici à Paris. Et dans 10 minutes, ce sera évidemment la Libre Antenne.